C'est Be'ezrat Hashem, le sion que nous allons Be'ezrat Hashem aujourd'hui développer. Et donc, l'Eilou Nishmato, c'est Jules Hamout Ben Rachel. C'est Nishmato, Soura, Bitro Achaim. L'une des mitzvot de la Torah, c'est de pouvoir s'adapter au temps. Le temps étant l'une des facettes de la création du monde, la Torah nous dit clairement « Binu shnot dor vador ». Soyez à l'écoute et au discernement des générations qui passent pour justement utiliser un langage qui puisse parler à la génération dans laquelle vous vivez. Il ne s'agit donc pas de continuer de développer un système qui a déjà vieilli au niveau des capteurs de cette émission. Je dois me mettre au niveau de la génération pour que cette génération comprenne, et je dois savoir quelle est la nature profonde de cette génération. Si c'est une génération mécanique, je ne peux pas lui parler comme j'ai parlé à une génération qui était 2000 ans auparavant. Le mois dans lequel nous sommes est le mois de Av, et on a l'habitude de rajouter le Menachem Av, la consolation. Donc, au-delà de la consolation que nous attendons dans le mois de Av, le Av en question, c'est le Aleph Bet. Donc Menachem Av, c'est la consolation des lettres. C'est-à-dire que le mois de Av, c'est un mois qui vient pour consoler le Aleph Bet du langage hébraïque. Pourquoi il faut consoler les lettres? Ben, tout simplement parce que les fautes faites par l'homme détruisent, endommagent les lettres. Et pourquoi les fautes endommagent les lettres? Ben, tout simplement parce que le monde a été créé par la parole. Baruch Amar Vehaya Olam. Baruch Omer Veose. Akadosh Baruch Hu crée le monde par des lettres. Les lettres en hébreu s'appellent Otiyot. Alors en traduction française, ça ne veut rien dire. On a l'impression que ce sont des lettres. Mais en réalité, en hébreu, la racine est Ata. Aleph Taf Aleph. C'est Ata. En araméen, comme dans la Gemara, veut dire venir. Donc les lettres, ce sont en réalité des véhicules qui servent à faire venir des idées. Ata Rabbi Simon, Rabbi Simon est venu. Ata Mireyevok Kodesh, nous dit le verset, Akadosh Baruch Hu est venu d'un degré qui s'appelle Kodesh. Donc, qu'a-t-il fait, le Créateur? Il a utilisé les lettres comme véhicule pour la création. Donc, quand je dis « Es ha-samayim ve-es ha-aret », les lettres que je viens d'utiliser maintenant ont la force de création. Ça veut dire que ce sont des éléments très puissants. Et chaque fois que la Torah, par exemple, parle d'une faute, eh bien, la phrase qui va écrire la faute, elle aussi, elle va utiliser des lettres. Et donc, la faute va endommager les lettres qui ont été utilisées pour définir la faute. Moralité, toutes les lettres de l'alphabet ont été endommagées, et donc, il va falloir les consoler. Et de là est venu le terme « Menachem Av », pas seulement consoler le mois de Av, mais Av Aleph Bet. Venir consoler le Aleph Bet. Donc nous sommes dans un mois qui est capable de guérir les lettres. Et c'est pour ça que nous lisons ce mois-ci, toujours, le passage entre Bamidbar et Devarim. Car le mot Bamidbar, c'est la parole. Et nous avons vu dans la paracha de Matos, Mas'eh, l'importance de la parole. Car la parole est créatrice, et Devarim, c'est l'aboutissement, ce sont les choses, Devarim. Donc quand je parle, je crée une existence nouvelle. à tel point qu'on nous a volé cette capacité de créer par la parole, même dans la klipa, dans les degrés les plus négatifs de ce monde, à savoir la sorcellerie. Dans la sorcellerie, nous connaissons le abracadabra. Abracadabra, c'est de l'araméen, c'est de l'hébreu. Abra, boré, je vais créer, kedabera par la parole. Et donc, le sorcier dit une certaine formulation, une combinaison de mots qui vont créer une réalité. Et ça existe. Et nous, nous pouvons le faire, et nous devons le faire dans la Kedusha, dans la sainteté. D'où l'importance de sortir de bonnes lettres, de bonnes dictions, racine du mot « donner diction », c'est une bonne diction de notre bouche. Ou bien, chas de shalom, la malédiction. Il se trouve, d'après ce que je viens de dire, que nous créons nous-mêmes nos bonheurs et chas de shalom l'inverse. Par la manière dont nous avons de parler, nous pouvons créer des réalités. Donc je dois toujours utiliser la langue du Saint béni soit-il, car c'est la langue utilisée par le Saint béni soit-il pour créer, pour moi aussi, être à ce niveau. Est-ce que je peux être à ce niveau-là? Oui. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui me le dit. Il m'a créé à son image, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de parler. Nous sommes le seul être sur ce monde, dans ce monde, qui est capable de parler, d'utiliser le langage. Et donc, si je suis un medaber, comment est défini l'homme dans la Torah? Ruach memalela, un souffle parlant. Donc, ma qualité d'homme, c'est celui qui parle. Donc, je dois juger un homme par rapport à sa parole, à sa manière de parler, et à sa manière de tenir sa parole, et de contrôler sa parole. Donc, tout ceci est quelque chose d'énorme, qui nécessite un cours à part entière, mais ce n'est pas le but du cours. Le but du cours, c'est de savoir en réalité comment nous allons consoler ce Aleph-Bet. Donc le Aleph-Bet est en réalité donc toute la combinaison des lettres qui vont être des véhicules à l'unité divine. Alors on va considérer que l'unité divine, c'est la lettre Aleph, et que les lettres qui vont venir après vont être des vêtements. Donc après le Aleph, nous avons le Bet, le Gimel et le Dalet. Donc Beged. Beged, un vêtement. Donc le vêtement du Aleph, c'est Bet, Gimel, Dalet. Donc à chaque fois, va venir une lettre avec son vêtement. Pardon ? Beged, c'est la même chose. C'est Bet, Gimel, Dalet. C'est ce que je viens de dire, Beged. Mais en même temps, ça peut être Bagdad, c'est-à-dire trahir. Donc, où il y a trahison, où il y a essence. Quand je dis trahison, c'est tout ce que je suis en train de faire maintenant. Parce que je parle en français. Je suis en train de trahir le texte hébraïque. Mais malheureusement, on a raté une génération, puisque les enfants que nous sommes n'ont pas encore acquis réellement le langage hébraïque, qui est un grand secret. Et donc, étudier l'hébreu, c'est la plus grande étude de la Torah. C'est beaucoup plus qu'ouvrir un livre. Et malheureusement, on ne sait pas étudier l'hébreu, donc on se fie aux traditions qui sont en réalité des trahisons. Peu importe, la Géoula que nous attendons, c'est celle qui va guérir les mots M-O-T-S et les mots M-A-I-I. Bizarrement pareil au niveau de la sonorité. C'est-à-dire que nous pouvons guérir le mal par le verbe. Et effectivement, le Kohen Gadol était capable de guérir ou de définir une maladie seulement par sa parole. Si le Kohen disait « Tamé », la personne devenait imperméable. Tamé ne veut pas dire impur, mais imperméable. Atum. Il faut toujours savoir la racine. Ou bien, l'inverse de Tamé, Tahor. Et donc, c'était seulement par le verbe du Kohen. Quelqu'un qui fait un vœu, eh bien, il va chez quelqu'un qui est plus haut que lui en sagesse, et celui qui est plus haut peut dénier le vœu qui vient d'être fait par la personne inférieure. C'était comme ça que ça marche. Donc, il y a une hiérarchie pour pouvoir guérir de tous ces maux. La grande guérison de tout ce monde, c'est la Géoula. La Géoula, dans son langage moderne, c'est le Goël. Tout le monde cherche le Goël. Et c'est tout simplement aussi par les 22 lettres de l'alphabet, donc 22 doigts. Et donc l'unité divine qui est le rond, va descendre et doit entrer dans le carré de ce monde. Donc c'est le football. Et c'est pour ça que le stade, c'est un grand cercle avec un trait qui est dans la Kabbalah, c'est une notion très connue qui s'appelle Igulim Veyofer. C'est-à-dire le cercle et la boîte. Donc si vous voulez juste une petite référence, ça va avec. Donc la Géoula, elle vient dans une inversion de l'alphabet. On appelle ça en hébreu Shrika. Shrika veut dire un sifflement, il shrok. Mais lorsque les sages utilisent l'inverse de l'alphabet, au lieu de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hey, on commence par ça, Sin, Resh, Kouf. Et ça devient Sifrok. Tu siffleras. Pourquoi? Parce que la Géoula vient des pieds, de la fin, jusqu'à la tête, de l'extériorité, la plus lointaine, jusqu'au retour à l'intériorité. Et pourquoi donc? Mais tout simplement parce que la création du monde, c'était exactement l'inverse. Du plus intérieur, qui est le créateur lui-même, vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la création en hébreu. Bara, comme en arabe, dehors. Donc mettre dehors. Bara. Et qu'est-ce qu'on a mis dehors? Bien, bar veut dire dehors, aleph, barra, bar, aleph, sortir du aleph. Donc, si je sors du aleph, je suis un créateur. Nous ne pouvons pas être créateurs. En France, il y a des créateurs de mode, il y a des créateurs de plein de choses. C'est de la poutelle, ça n'existe pas. Créer, c'est de rien. Ex nihilo. Alors qu'en réalité, nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on part d'une matière existante. Donc nous pouvons au maximum être des façonneurs, mais non jamais des créateurs. Il y a un seul créateur, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, nous sommes dans l'extériorité qui va revenir petit à petit vers l'intériorité du départ. Et le plus grand intérieur de tout le monde, qui s'est dévoilé dans le plus extérieur de ce monde, eh bien c'est l'infini de l'histoire. C'est ça la création. Donc, pour corriger cette création, je dois tout simplement faire en sorte que la fin revienne vers le début. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va revenir? Est-ce qu'on a déjà vu un bébé revenir dans le ventre de sa mère? Non. Ça veut dire tout simplement que le bébé, quand il va grandir et qu'il va devenir un homme, il va être exactement comme il était dans le ventre de sa mère avec la plus grande des connaissances qu'il a oublié quand il est sorti. C'est ça que ça veut dire. Donc, à chaque fois que vous entendez dans la Torah « Dieu est descendu » ou « L'homme est monté », il n'y a personne, ni qui descend, ni qui monte. Ça ne veut rien dire. Ce sont des expressions pour vous dire que vous vous êtes approché d'un certain degré. Quand je dis à quelqu'un « Je suis monté en sagesse », je n'ai pas fait un pas au niveau d'escalier. Quand on dit que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, vous croyez qu'il a marché des kilomètres comme dans les films que vous avez vus? Jamais. La Gemara dit qu'il a fait un pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré dans un autre domaine, dans une autre dimension. C'est ça monter. Et c'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Et parfois monter veut dire descendre. Par exemple Aliyah. Monter en Israël, c'est être capable de descendre dans la matière. Et ceux qui en Israël ne comprennent pas ce secret, ils se disent qu'en Israël, on devient des vapeurs. Pas du tout. Au contraire. Si tu ne sais pas que ta véritable alia, elle passe par une yérida dans la matière, tu n'as rien compris. Et donc il y a à boire et à manger jusqu'à l'infini. Je vous rassure. Mais donc pour corriger, il faut que la dernière lettre, comment elle s'appelle la dernière lettre? Le Tav. Est-ce que vous savez comment on écrit un Tav? Puisque vous êtes sophère, il y a dans le Tav le dernier degré avec lequel on met l'encre. Ça s'appelle Psi'al-e-Bar, c'est-à-dire un petit pied du Tav qui sort dehors. C'est la lettre la plus éloignée du Aleph. Parce qu'on est déjà à la 22e lettre, et en plus de ça, elle a un pied qui va vers je ne sais où, dehors. Eh bien, quand ce pied qui va dehors, qu'on appelle Psi'al-e-Bar, un pas vers l'extérieur, eh bien, va réaliser, et ce que je dis tout à l'heure, revenir vers le Halef. Quand il va revenir vers le Halef, qu'on va réaliser le Halef, eh bien, en réalité, j'ai la totalité. Donc, je prends le Halef et le Tav, ça devient S. Et c'est la racine du mot Lef, Ata. Donc, les Lef, c'est tout simplement faire venir l'unité du Halef vers la dernière des lettres jusqu'au plus dernier des pieds. Alors ce n'est pas un rond, ça ressemble à un rond, mais il a quelque chose de plus, ce rond. Il a une direction. Parce que s'il était un rond, ça aurait été un disque plat. Or là, il s'agit d'une spirale. C'est-à-dire que c'est un cercle, mais à chaque fois, c'est un degré plus haut. Et donc en réalité, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'était l'un des secrets de la Kabbalah, c'est que le rond, il a aussi un yoker, une direction. Donc c'est un cercle muni d'un sens. Ça s'appelle une ligne. D'accord? Exactement. Et c'est ça le secret du judaïsme. Donc, tout ce qui a été dévoilé du Aleph jusqu'au Tav, eh bien, j'attends du Tav. Qu'est-ce que c'est le Tav? En hébreu. Que veut dire le mot Tav en hébreu? Tavim, qu'est-ce que c'est Tavim? Une note, ou bien Tav veut dire un signe. D'accord? Quand on veut mettre un signe sur Kaïn, on appelle ça Ot Kaïn, c'est un Tav, on lui met une lettre sur le front. Et donc, quand la dernière des lettres va dévoiler la première des énergies, on est dans le monde du Tikkun. Et c'est ce qu'on appelle Tassouri Meros Amana dans Sirachiri. Qu'est-ce que ça veut dire Tassouri? Tu verras. Vous connaissez le mot Tir'i, Tistakli, ça c'est l'hébreu Tita Alephbet. L'hébreu toranique, c'est Tassouri. Si tu dis à quelqu'un Tassour, et tu sais ce que tu lui demandes, ou bien il te regarde comme ça, il sait quoi ce Tassour? Eh bien, Tassour veut dire qu'il est. Mais qu'il est Ba'om. Tu vas voir dans la plus grande des profondeurs. Meros Amana. Donc, ça, c'est un secret. Et ce degré-là du dernier des degrés jusqu'à la source, c'est seulement du côté superficiel de la vie. C'est-à-dire, quand je veux guérir le mal des lettres dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, tout le monde entier, qui est en réalité une combinaison de l'être. Parce que même quand je pense, même quand je rêve, même quand je vous parle, qu'est-ce que je fais? Que des combinaisons de l'être. On est d'accord? Et avec toutes ces combinaisons de l'être, nous pouvons échanger des pensées. D'accord? Donc vous réfléchissez par des lettres, vous pensez en lettres, vous rêvez en lettres. Tout ce que vous faites, ce sont en réalité que des lettres. Impossible de faire autre chose qu'avec des lettres. Dans toute votre vie, c'est en réalité une combinaison de lettres. Votre nom, votre prénom, c'est que des lettres. Et si on savait le secret des lettres, on devrait les consoler Menachem Av, et on aurait une consolation totale, parce que Menachem, c'est le nom du Mashiach. Donc le Mashiach va utiliser les lettres. Et c'est ça son secret. C'est le secret, en réalité, de découvrir les véhicules avec lesquels ce monde fonctionne. Et si je connais le secret des lettres, eh bien je peux changer les formes des choses. Et c'est ça la force de la Torah. Tzadik gozer, Zakadosh Baruch Hu Mekayem. Si un tzadik dit quelque chose, ça se passe. C'est bizarre. C'est pas qu'il savait avant ce qui allait se passer. Non. Il dit, il a créé une nouvelle réalité. Et Akadosh Baruch Hu, pour ne pas faire honte à ce tzadik, eh bien, il va sceller ce qu'il vient de dire par sa bouche pour que la chose se fasse comme ça. Incroyable. Et donc, en réalité, ce rythme-là, de la fin vers le début, ça ne se fait que dans le monde superficiel, extérieur, que nous touchons, que nous pouvons voir. Alors que, dans l'intériorité, parce qu'il y a un autre mouvement, celui de l'intériorité des mondes, celui que vous ne voyez pas, et que justement il faut savoir voir, eh bien, de l'autre côté, de l'intériorité, la Géoula, elle est exactement l'inverse. C'est-à-dire, elle vient de la première lettre pour aboutir à la dernière. Donc nous avons ici deux mouvements simultanés. Un mouvement extérieur qui va vers l'intérieur et un mouvement intérieur qui va vers l'extérieur. Et c'est comme ça que le monde est géré. C'est-à-dire l'un des pieds vers la tête et l'autre de la tête vers les pieds. Et maintenant vous comprenez la machloket dans l'Agmara de Rosh Hashanah à la page 11 entre Rabbi Yehoshua et Rabbi El-Hazar. Quant à la date de la création du monde, qui est d'une manière simple, n'importe quoi. Car au moment où le monde est créé, il n'y a pas de date. Vous comprenez? Donc comment deux sages de l'Agmara peuvent me dire que le monde fut créé en Tishrei ou en Nissan? Alors oubliez tout ça, c'est pas ça. Les sages viennent nous dire, est-ce que le mode de réparation de ce monde va venir comme Nissan ou comme Tishrei? Qui vient comme Tishrei? Écoutez les lettres, Tafin Resiu, c'est-à-dire de la fin vers le début. Et si c'est comme Nissan, c'est Nun Tamer, du début vers la fin. Et c'est ça la vraie machloket. Seulement, si vous n'étudiez pas le sens profond de la Torah, vous allez rester avec une conviction que deux sages étaient en train de discuter la date de la création, qui est complètement ridicule. Et donc, c'est en réalité savoir, et les petits-fils de Rashi, qu'on appelle les Tosfot, qui étaient en France, qu'est-ce qu'ils nous disent? Elou. Ve Elou divrei Elohim Chaim. Rabbi El-Hazar et Rabbi Yehoshua, même s'ils ne sont pas d'accord sur la date, c'est en réalité des paroles du Dieu vivant. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'ils parlent d'autre chose. Chacun parle d'un autre degré, d'une autre façon de voir la vie. Un voit la vie de l'extérieur vers l'intérieur. Et l'autre voit la vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et la discussion entre ces deux sages n'est pas du tout à quel moment Dieu créa le monde, ça n'existe pas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Mais quel est le sens de leur discussion? Comment est-ce que ce monde devra être corrigé? Est-ce qu'on va aller du résultat vers la source, ou bien de la source vers le résultat? Et vous comprenez qu'en réalité, ça dépend de qui? De chacun d'entre nous. Il y a des gens qui vont travailler de la fin vers le début, parce que ce sont des personnes qui ont besoin de voir des résultats d'abord. Et donc à partir du résultat, il va revenir rétroactivement vers la source. Et il y a d'autres qui vont se dire non, moi je vais vers la source, où est-ce que je vais trouver la source? Dans la Torah, et je vais voir comment la source est devenue un jour un résultat. C'est pas trop difficile ce que je vous raconte, j'essaie d'être le plus clair possible. Ce sont des choses très profondes, mais j'essaie de les habiller à un degré humain. Et moralité, c'est comme ça que le monde s'est créé. Nous avons un Midrash Rabba, dans la parasha Bet Siman Zayin, et il nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Kriya Rabba. Rabbi Chiya Rabba nous dit quelque chose d'incroyable. Mitrilat Briato Shel Olam, au moment où Dieu a créé le monde, Safa, il a prévu, comme s'il avait des humains, il savait qui allait venir, Harat Sofim, Sofim veut dire ceux qui voient, sur un télescope, mon scopus. Donc, Akadosh Baruch Hu a prévu quoi? De Migdash Banoui, un temple construit, Ve Charet, et un temple détruit, Ve Banoui, ou Mesouklat, et un temple construit. C'est quoi ce livre? Voilà ce que le Midrash nous dit. C'est-à-dire, Dieu a vu un temple, une destruction, un retemple, une destruction, un retemple. Ça continue. Bien, tout simplement, nous avons affaire ici à quoi? À la structure intérieure de ce monde. Je le traduis avec des mots simples. Toute notre vie aura cette même structure. C'est exactement la même. C'est-à-dire, à chaque fois que tu vas faire quelque chose dans ta vie, ça aura ce rythme-là. Au début, ça va être plein. À un moment donné, tu vas te casser la figure. Et après, avec les morceaux, tu devras te reconstruire. Et après, tu vas monter de niveau et tu vas faire la même chose puisqu'on parle d'une spirale. Et donc, chaque année, nous avons la même chose. On commence par une entité, un idéal très beau. Cet idéal va se briser à un moment donné. Il va falloir faire tout pour le reconstruire. D'ailleurs, c'est dit sans être dit le premier jour de l'année. Quelle est la mitzvah de Rosh Hashanah? La seule. Le shofar. T'as rien besoin d'autre. Aujourd'hui, c'est devenu plein de choses, machin. La seule mitzvah de Rosh Hashanah, c'est d'entendre le shofar. Pas facile. J'ai pas dit d'entendre le son du shofar. J'ai pas dit ça. Parce que la Torah, elle sait parler, elle est précise. Quand je vous disais tout à l'heure que la traduction est une trahison, aujourd'hui, tu dis, je vais entendre le son du chauffard, comme si le sonneur du chauffard était un sonneur. Aucun rapport avec ce que la Torah nous dit. Les Chachamim nous disent, l'ishma kol chauffard. Or, si vous connaissez l'hébreu, le kol, c'est une voix, V-O-I-E. Même pas une voix, V-O-I-X. Autrement dit, c'est quelque chose de très profond. Il faut être très, 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 très fort pour pouvoir entendre. Et moi, je vous pose des questions. Combien d'entre nous sont capables d'entendre la voix intérieure du chauffard et pas seulement le son? Là, on peut se réveiller. Donc, tu as une journée entière, qui en réalité deux jours de Rosh Hashanah. On te donne 48 heures pour être capable d'entendre la voix. Ce n'est pas là où ceux qui a dit il faut trouver sa voix. Ça vient de chez nous. Et c'est le premier jour. Or, dans cette voix du chauffard, qu'est-ce qu'il y a? Un code. Le code que je viens de vous donner. Car le premier son qui sort de cette voix, c'est quoi? Un son infini. D'ailleurs, ceux qui savent sonner du chauffard n'ont pas le droit de faire un petit à la fin. Non. C'est pas tout, c'est pas dans les films. Voilà. Le deuxième son, c'est quoi? Tout. Qu'est-ce que je viens de faire? Mais j'ai cassé le premier son. Donc en réalité, si je traduis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, au départ, j'avais une entité. Et la deuxième phase, c'est la brisure. D'ailleurs, ça s'appelle Shvarim. Ouais. J'ai cassé. C'est extraordinaire. Et quand j'ai cassé, j'ai obtenu en fait un mot de détail, de multiplicité. C'est le troisième son. Ouais. Mais on nous demande quoi dans ce monde? Parce que si tu restes dans ces multitudes de détails, tu vas devenir fou. On te demande de retrouver le dernier son qui était en réalité le premier. Et donc tu dois toujours terminer ta sonnerie par un... Voilà l'histoire du monde. je viens vous raconter l'histoire de la vie, de ce midrash que je viens de vous lire, tout simplement par le son du chauffeur.
Incroyable.
Vous voyez l'intelligence de la Torah. Et ça, si on ne connaît pas ce secret, eh bien, on va entendre. Allez, si Dieu veut, l'année prochaine, Baraham Machor, quelqu'un qui a entendu le chauffeur, allez, si Dieu veut, une bonne santé, une bonne année. Baraham Machor, c'est sympathique, tu dois souhaiter, je néglige pas tout ça. Mais c'est tellement plus profond.
C'est
des lettres. C'est des lettres.
C'est
des lettres. Un taf dans le livre que vous avez. Vous le voyez le taf. Et après vous avez un signe. Après vous avez un reste. Après vous avez un taf. Tarat, tafrat.
C'est des lettres.
Donc quand je fais le taf, tarat, qu'est-ce que je viens de faire? Taf, signe, reste. Donc je suis en train de revenir de la fin vers le début. Maintenant vous avez compris. C'est un alphabet inversé.
Incroyable.
Ben vadaï, si la personne tombe, ça dépend de la personne. Et donc notre moralité, on est toujours au même point, mais un degré plus haut. Sinon, on ne bouge pas. L'année dernière, j'ai fait Rosh Hashanah à telle date, cette année je suis au même degré, dans le même disque. Donc je suis dans un monde plat, c'est-à-dire dans un monde sans avenir et sans aucun petit coup. C'est-à-dire que je suis dans un monde décrépit. Et c'est ça le monde, c'est les nations du monde. C'est une dépression totale. Parce qu'elles ne vont nulle part. Ça veut dire que le temps, par définition, c'est un cercle. Sans qui, à l'intérieur de ce cercle, il va donner une direction, Israël. Donc Israël, c'est la droite qui est à l'intérieur du cercle. C'est là centrale de ce cercle. Et c'est pour ça qu'Israël, dans le mot Israël, les trois premières lettres, c'est Yassar, la droiture.
Est-ce que ça
ne
rejoint pas la somme avec le...
Exactement. Et maintenant vous allez comprendre, puisque nous sommes en train de parler des lettres, que la faute du veau d'or encore une trahison, c'est pas ça, c'est la faute du Egel, en hébreu Igoul. C'est de rester dans ce cercle sans avoir trouvé sa droite. Donc la faute du veau d'or, c'est quoi? C'est tout simplement faire de sa vie un disque plat. C'est ça. C'est pas des bonhommes qui sont primitifs, qui vont créer un petit veau en or et qui vont le lever, qui vont lui dire c'est ça le Dieu d'Israël qui nous a fait sortir. Vous croyez que c'est des débiles? C'est en réalité chacun de nous. Est-ce que j'ai donné un sens à ma vie ou bien est-ce que ça fait 60, 70 ans que je tourne en rond? Voilà la véritable question.
On est content de discuter ça parce que si tu as dit, on a pensé que tu veux le vouloir.
C'est pour ça que vous êtes venu. Peut-être que c'est pour ça que tu es venu. C'est Yahou qui m'a fait venir, moi je ne sais pas. Un bet midrash bli chidouche. Il n'y a pas d'étude sans un chidouche. Donc, si c'est pour encore vous dire, allez, soyez gentils, faut étudier la Torah, c'est pas du tout, vous n'êtes pas venu à la bonne personne. Hein. Bien, moi, j'étudie la Torah, mais la Torah, elle est divine. Et si vous la mettez à un niveau du ras des pâquerettes, c'est un chidou. C'est une profanation de cette intelligence divine infinie. Et on a le devoir, surtout dans une génération, et j'ai ouvert mon cours avec ça, qui est justement, si tu l'appelles une génération messianique, pourquoi tu lui parles encore comme si tu parlais un débile? Il est capable d'entendre autre chose, et il apprécie. Et si d'ailleurs, tu lui parles pas ce langage, et qu'il est un petit peu plus jeune que monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller en Inde pour chercher un remplacement, parce qu'il ne peut il ne suffit pas de ce qu'il reçoit ici, arrêtez quoi, ça suffit. Arrêtez.
Alors c'est à revoir, parce que si Pierre Arène aujourd'hui ne parle aucun.
À chaque fois j'ai le même problème, j'ai le même problème. Mais on vient sur moi je ne suis pas fautif, hein. Moi j'essaie de faire du mieux pour corriger ça.
Ah, parce que
Nakhon, c'est pour ça que j'utilise Internet, c'est pour ça que j'utilise tout ce que je peux. Je suis en train d'ouvrir un site, voilà, je fais ce que je peux, et je forme des élèves qui vont devenir des apprentis de maître dans ce sens. Mais il faut comprendre. Toi?
Je suis un élève.
Moi aussi, je suis un élève. Ça va, c'est moi. Moi aussi, je suis un élève. Jamais on appelle un rave, on appelle Talmid Chacham. Lui aussi, c'est un élève.
Moi, à côté de lui,
chacun à côté de l'autre, on ne sait pas. On ne se compare pas, pas juste à l'autre. C'est-à-dire, on a chacun sa place, chacun son éclairage. Moralité, vous comprenez que cette Mishnah, ce Midrash, il vient nous enseigner en réalité une seule chose. La structure intérieure, l'ADN du monde. C'est-à-dire, ne vous faites pas de soucis. À chaque fois que vous avez quelque chose, ça va un jour se casser la figure. Pourquoi faire ? Pour vous permettre à vous de reconstruire. Parce que la première fois que vous avez reçu l'entité, je parle par exemple du premier son, du chauffard, le tout, celui-là il est gratuit. Il vient d'en haut, il n'a rien fait pour l'avoir. Mais quand il y a le deuxième son qui t'a déjà cassé tout, et après il y a toute la distraction du tout, qu'est-ce que tu dois faire maintenant ? Eh bien, tu dois rassembler tous ces morceaux pour retrouver l'image première que tu as déjà perdue. Et malheureusement, notre monde se perd dans les détails. En hébreu, il y a une très très belle expression. Quand tu vas voir beaucoup d'arbres, tu peux oublier que c'est une forêt. Tu te dis, j'ai vu un arbre, et encore un arbre. Tu dis, ça s'appelle une forêt. Mais ça, on ne sait pas. Mais Rome, Rassim, Loroim et Tayar. Mais c'est la même chose dans notre vie. Je fais une mitzvah, et tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que la nation d'Israël, qui est la grande forêt. Tu ne sais même pas quel est le but de cette nation dans ce monde. Tu as l'impression que tu es né juif et qu'on te met dessus, tu auras une mitzvot. Pourquoi faire ? Quel est mon rôle dans ce monde ? Dieu nous a créés pourquoi ? Pour être des religieux ? Pas du tout. Dieu nous a créés dans ce monde pour qu'on se révèle en tant que peuple. Hier, je l'ai cité dans le cours, ce qui était avec les rabbinis. Am Nivra, lo anasim pratim. C'est un peuple qui a été créé par Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Yehalelia. Pour louer, pour raconter Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Si je ne suis pas capable en tant qu'individu de comprendre que je suis à la base un peuple, je ne peux rien faire. Même si je fais Torah et Mitzvot toute la journée. Parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de raconter ce qu'est Yisraël Saferou. Et si vous voulez jouer avec les mots, Yisraël Saferou veut dire, pas seulement raconter, mais couper, comme les cheveux, ça part. Autrement dit, pour expliquer quelque chose, il faut être capable de découper. Et en hébreu, on parle de chitour aussi. Et si tu ne sais pas couper et découper, et si tu ne sais pas donner des respirations entre les mots que tu dis, eh bien les gens ne comprennent rien. Moralité, quand on coupe, on laisse des vies. Et quand on laisse des vies, on est avide de remplir. Et c'est ça tout le secret. Donc lorsque Akadosh Baruch Hu nous casse la première donnée qui était à belle entière, c'est pas pour nous punir. Mon père était ailleurs, dit Ronan Librafa. Quand quelqu'un venait lui donner un tissu qu'il a acheté à 3000 euros le mètre, et qui rentrait chez mon père le lendemain, qui voyait des morceaux partout, découpés par terre, et il sort avec un couteau, il dit à mon père, mais vous avez massacré mon tissu. Il m'a attendez, vous venez à la fin de la semaine, vous allez voir un costume. C'est-à-dire que c'est normal de découper la première idée pour qu'elle tombe, pour qu'elle laisse la façon de façonner pour avoir ce costume. Alors effectivement, tu as l'impression que le type il est joli fou, il a pris des ciseaux. D'ailleurs, c'est marqué sur les tzadikim, tzadik, gozer. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous comprenez que j'ai même pas commencé mon cours. C'est l'heure. Et je dois bientôt le terminer.
Non, mais pas
non. Exactement. Couper, c'est mettre à la possibilité de l'autre de manger. Quand j'ai un pain, est-ce que tu peux manger un pain? On est obligé de se le mettre en pousseau. Donc le mot parous, c'est les mêmes lettres que sipour. C'est la même chose. Donc l'echem parous, c'est un lechem qu'on a mis en histoire pour que tu puisses le consommer. Sinon tu vas rentrer un grand pain dans ta bouche et tu vas t'étouffer. C'est tout. Mais la Torah, c'est la même chose. Quelle est la valeur d'un maître? Sa capacité à couper l'entité pour la mettre au niveau de l'élève, pour que l'élève puisse comprendre qu'on est en train de fabriquer un costume et qu'il ne prenne pas peur parce que le premier degré, c'est le découpage du tissu. Et tout le secret après, c'est quoi? Coudre. Ou reconstruire. C'est la même chose. Rassembler. Et en réalité, le peuple d'Israël travaille toujours sur les coutures. Toujours sur la couture. Qu'est-ce que c'est Shacharit? La couture entre la nuit et le jour. Donc tu es obligé de faire Shacharit. Donc tu travailles sur la couture, comme est ailleurs. Qu'est-ce que c'est Mincha? C'est au moment où le soleil est monté, tu commences maintenant à descendre. Donc tu travailles sur une deuxième couture. Qu'est-ce que c'est Arvit? Le jour qui passe à la nuit. Encore une couture. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah? La couture entre l'année d'avant et l'année d'après. Qu'est-ce que tout? Qu'est-ce que des coutures? Donc nous sommes tous des couturiers.
On ne fait pas en haute couture.
D'accord. Et ça, c'est de la haute couture, c'est la Torah. La Torah, c'est de la haute couture. Et il faut choisir pour la haute couture un bon fil. Une bonne machine. Un bon tailleur. Et donc comment on dit coudre en hébreu? Tofer. Et si vous inversez les lettres, c'est poter, qui veut dire solutionner, comme Harry. Mais nous, on a Yosef, poter chalomot. On n'a pas besoin de Harry Potter. Nous avons Ben Porat Yosef, Ben Sofer Yosef. C'est la même machine. Donc, nous sommes tous des relieurs de petits morceaux de tissu. Et si on ne sait pas faire ce travail, eh bien, on va continuer à vivre comme des âmes qui ne comprennent rien et qui font des détails, qui est rempli de trucs, tu sais même pas qui tu sers, pourquoi est-ce que tu fais partie d'un système ou pas. Imaginez-vous une cellule dans votre corps qui ne sache pas qu'elle fait partie de la personne. Vous savez comment ça s'appelle? Un cancer. C'est ça le cancer, Rabbi Shalom. Alors on fabrique des juifs cancérigènes, Chas v'Shalom. Parce que si tu ne sais pas que tu fais partie d'une nation parce que tu n'as jamais eu un cours de cette catégorie, et on n'enseigne pas ça partout. Il n'y a pas beaucoup qui enseignent ça. Ça s'appelle Kitat Emouna. Si vous rentrez dans une yeshiva, c'est rare de voir marqué sur la porte Kitat Emouna. C'est rare. Ça n'existe presque pas. Là où j'ai la chance d'être depuis déjà 20 et quelques années. J'enseigne au Mahon Meir. Ça, c'est le secret. C'est de savoir relier tous ces morceaux de tissu.
C'est-à-dire que j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, je croyais avoir compris. Mais j'ai compris que j'ai rien compris.
Donc j'ai compris.
Non, ça fait un peu de l'ouvda. Il m'a fait comprendre que j'ai rien compris.
Chas v'Shalom, il n'est pas venu pour ça, mais... Vous me rappelez quelqu'un. Toda Rabba. Mon Rav, le Rav Yoshua Zuckerman, qui est mon Rav. quand on va ensemble, je voyage de temps en temps avec lui dans des séminaires en France, le premier cours du séminaire, c'est un vendredi soir, tous les gens partent dormir dépressifs. Salomba. Ils vont tous et ils pleurent la nuit du vendredi au sabbat matin. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de tout casser, on est obligé de tout démonter. Et le lendemain matin, on reconstruit tout. Et donc, c'est exactement le phénomène que vous venez de ressentir. Mais c'est bénéfique. C'est important de sentir ça. Quand tu crois que tu es, entre guillemets, religieux, moi je suis anti-religieux. Mais quand les gens pensent qu'ils sont religieux, ils se disent, moi j'ai rien à apprendre, moi ça y est, je suis arrangé. Et tous les matins, j'ai mon système, les filles, le matin, je porte les mêmes trucs au même moment, au même endroit, les petits gestes, les petits matins. C'est devenu une machine.
Une machine.
Quelle? Même quand tu faisais à l'extérieur, tu fais partie de ce clan. Mais est-ce que tu le vis ou est-ce que tu ne le vis pas?
Il n'y a pas à vivre.
Ça n'a rien fait. D'abord, vivre, c'est prendre conscience. Et quand tu prends conscience, tu sais que la cellule, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de cette cellule, qu'est-ce qu'elle se dit, la cellule? Moi, je fais partie de Yoël. Je ne peux pas considérer que lorsque Yoël se lève, moi, la cellule ou plusieurs cellules, je reste au lit. Imagine-toi que je me lève le matin et mon oreille me dit non, allez-y, je vous rejoins vers 10 heures, je suis crevé. Ça vous fait rire, d'accord? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Les gens qui n'ont pas compris que leur place est en Eretz Israël, les gens qui n'ont pas compris plein de choses. C'est comme ça. C'est allez-y, moi je suis une oreille, j'ai pas encore bien compris, j'ai pas encore entendu. Je ris. Exactement. On est obligé de faire un reset, d'appuyer pour tout éteindre, même dans votre ordinateur. À chaque fois, il se dit, il faut que je me réinitialise. Qu'est-ce qu'il fait? Il éteint. Et il recommence. Et celui qui ne comprend pas, qu'est-ce qu'il se dit? Non, je ne voulais pas éteindre, je voulais juste que tu te mettes en page. C'est comme les tristines, ouais, les tristines israéliens, ils sont intéressants. Quelqu'un vient et vous dit, je veux une grande lumière. Qu'est-ce que tu fais? Tu les fermes tous. Là, j'aime le mec, il se dit, mais attends, tu m'as mis dans le noir. Il dit, mais attends, 5 secondes. C'est ça le lien. Je ferme tous les petits pour découvrir le grand. Ça, c'est un secret du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, alav shalom, qui nous dit qu'à la fin des temps, il y aura un moment d'extinction totale de toutes les lumières, et les gens qui vont vers la Géoula, ils vont se dire, mais c'est ça la Géoula. Je dis, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de patience. Car Kadosh Baruch Hu, il est en train de fermer tous les tristines pour ouvrir la grande fenêtre. Elle est belle image. Mais c'est comme ça que ça se passe. Et c'est exactement le Midrash que je vous ai raconté. C'est-à-dire que il y a des gens qui savent travailler pendant les moments d'extinction, de brisure. Juste j'écris pour nous rajouter parce que j'écris. Je suis obligé d'écrire.
J'ai dit que l'âme Israël avait un rôle à jouer.
De son propre peuple, d'abord de savoir qui il est, parce que s'il ne connaît pas son essence, si vous ne connaissez pas votre identité, comment vous pouvez travailler? Donc je dois donner des cours sur mon identité. Ça prend des années à étudier qui est Israël. C'est quoi? Quoi? C'est un ensemble de juifs, on a créé un club, on a des casquettes. On dirait qu'on fait tous partie d'une équipe de golf. Tous les juifs en France, ils ont des casquettes. On dit, de quelle équipe tu fais? Parti. C'est un petit une casquette, on vous a le droit. À chaque fois, aujourd'hui, de quel club tu es? Mais il faut comprendre ce qu'on est. Et une fois qu'on a compris le but, eh bien, le prophète, parce qu'on a des prophètes, Isaïe 43, 28, nous dit, Am. Zou, Yatarti, Li, Dieu dit, j'ai façonné, je me suis façonné ce peuple-là. Pourquoi faire que la fille s'appelle pour qu'il raconte qui je suis aux nations du monde. Voilà notre rôle. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il faut le faire? Tout ça, il faut étudier. Mais si tu ne sais pas ça, tu as l'impression que tu es plongé dans un degré, allez, Abraham, Torah et Mitzvot. Avec l'accent français en plus, c'est mieux. Et ça, c'est en réalité ce qu'on doit comprendre. Et tout ce masber-là, c'est la même chose quand une femme accouche. Comment s'appelle le lit sur lequel elle se pose pour faire sortir le bébé? Vous savez comment ça s'appelle en hébreu?
Masber. Incroyable.
Yosevet al-Hamasber. Lo al-Akise, lo al-Amita, al-Hamasber. C'est-à-dire, le lit s'appelle la brisure. Pourquoi faire? Pour donner la vie. Donc tu dois te briser pour donner la vie? Oui. Tu dois te casser pour grandir? Oui. Comment s'appelle la montagne sur laquelle la Torah a été donnée? Ça c'est le premier nom. Chorev, destruction. La montagne de la destruction. Ça je ne comprends pas. Tu viens me donner une Torah, donne-moi une montagne qui s'appelle le jardin d'Éden, l'arbre fleuri. Non. Si tu ne te casses pas, comme tu viens de le ressentir, tu peux pas étudier. C'est pour ça que c'est une bracha.
C'est pour ça que j'étudie beaucoup. Vous avez entendu ça.
Alors je prends ça comme un compliment. C'est très important ça. C'est très important. Je dois casser, briser la structure où j'ai cru que j'étais déjà tranquille. Comment ça s'appelle les étapes dans le désert? On les appelle les étapes, comme en français. Regardez encore une trahison. En hébreu, on parle de Massaot, des voyages. Exactement l'inverse. Donc, en français, vous parlez d'étapes, alors qu'en hébreu, vous parlez de voyages. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es dans une étape, qu'est-ce qu'ils faisaient les enfants d'Israël lors d'une étape? Ils construisaient le Mishkan. Donc en réalité, ils avaient ce qui se reposait. Ils ont un édifice, il y a Moshe Rabbeinu, il y a Aaron, il y a les chérubins. On est tranquille, j'ai ma synagogue, j'ai ma boucherie, j'ai mon petit truc. Et la Torah te dit, non, moi je ne veux pas les étapes, je veux les voyages. Et qu'est-ce que tu fais pendant que tu sors en voyage? Tu es obligé de tout démonter. Donc moralité, quand est-ce que tu avances dans ta vie? Quand tu es capable de démonter ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Et si tu as peur, tu vas rester avec ton niveau du radépassage d'hier.
Mais c'est ça, Maria.
Exactement. Exactement. C'est tout casser, tout défaire pour reconstruire par rapport à ce pays qui n'est pas du tout la même chose. C'est pas tu as changé géographiquement de là-bas qui est venu ici. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Tu n'es pas capable de sortir, de tout changer, de te réinventer. Tu n'as rien fait. Mais bagaille, c'est ça le lien. C'est le tout, on ne veut pas. Donne-nous du tout. On est tranquille, ça continue, ça coule. Tu dis, tu verras, tu vas rire. Je ne veux pas. Donne-moi une skia.
Donc la vie
d'après son pays de reçu, son pays de reçu, son pays de reçu. Et Dieu dit à Abraham, si tu n'es pas capable de quitter ton stade d'hier, tu ne pourras pas devenir un peuple demain. Dieu n'a pas dit à Abraham, je ferai de toi un grand juif qui va allumer des chanoukiot à Ur-Kasdim ou à Paris, dans une place, à Hanouka. Et distribuer des bénis, on s'en fout de ça. C'est pas ça qu'Adonai Baruch Hu demande à Abraham. Pourquoi le peuple d'Israël sort de vie? On n'aurait pas pu monter la plus belle communauté juive à Alexandrie? Mais j'explique. C'est pas une question. Non, j'explique le phénomène. J'explique le rythme pour que ça vous rassure. Même si on l'a fait, on l'a fait peut-être sans comprendre ce qui se passe. Là, je vous mets des mots sur les choses. C'est très important puisqu'on parle de définition. Si je ne sais pas définir la chose, c'est un problème.
Quelle est la démarche qu'ils ont faite quand ils sont venus en Amérique?
Aucune démarche, ils n'ont rien compris.
Alors, ben, quand même,
c'est quelque chose qui est. C'est quelque chose qui vous dépasse.
Voilà.
Bien sûr.
Là, on comprend pas.
Ça, c'est exactement. C'est pas quelque chose qui s'habille dans la logique. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est parce que vous avez entendu le chauffard à l'intérieur de votre cœur. C'est pour ça que j'ai dit une voix.
Il y a le peuple qui travaille avec sa terre, voix, ma terre, c'est le
même. Exactement. Donc c'est cette voix-là que vous avez entendue.
Sans comprendre.
Il y a ça. Et même si après, il y a des problèmes, il y a des problèmes.
Il y a des problèmes.
On n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas, mais ça fait partie de ce système-là. Donc, moralité, je ne vais pas abuser de votre temps. J'abuse, hein. Merci, c'est gentil. En plus, je reçois des notes. Donc, il y a une vieille dame qui m'a dit, monsieur Rabin, pourquoi les rabbins d'ici ne parlent pas comme vous? Alors j'ai répondu avec la même voix. Parce que tous ceux qui parlent comme moi, ils sont déjà partis. Qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je voulais vous dire, c'est tout simplement de ne pas vous habituer à vivre le temps dans lequel on est, des jours qu'on appelle Ben Ametsari, comme si ça allait continuer encore 2000 ans. Chas v'shalom. Habituez-vous à comprendre qu'on est en train de changer le processus et qu'on ne va pas continuer de jeûner à Tisha B'Av. Arrivera un jour où il va falloir retrouver la source de Tisha B'Av. Demandez aux gens maintenant dans la rue, quelle est la source de Tisha B'Av? Pourquoi tu jeûnes à Tisha B'Av? Qu'est-ce que tu fais à Tisha B'Av? Et s'ils vont vous dire, destruction du temps. Alors qu'en réalité, c'était l'ancien empire d'Israël. Les Meradim auraient dû décider de rentrer en terre d'Israël. Mais les gens ont oublié ça. Demandez aux gens, ils vont vous dire parce qu'il y a eu la destruction. Mais monsieur, tu es en train de voir la conséquence. Pourquoi tu ne vois pas la source? Quelle est la source de cette conséquence de destruction? C'est tout simplement parce que tu n'as pas compris qu'il fallait monter en Israël. Tu as décidé, après tout ce que tu entends, de continuer à vivre là-bas. C'est ce qu'ont fait les Meraglim. Et c'est à cause de ça qu'on a eu toutes ces destructions. Et pourquoi on a gêné le 17 Tammuz? La même chose, d'une autre côté. Parce que tu n'as pas compris qu'attendement qu'on voulait te donner des sables, que tu es incapable de considérer que Dieu descend sur terre et qu'il va te graver sa Torah dans ta matière. Donc tu lui dis, reste là-bas en haut, notre maître qui est des cieux et te dit, nous on est tranquille ici, laisse-nous tranquille. C'est ça. Donc on a peur de la Torah qui nous tombe dessus. Vous connaissez l'expression en français, que le ciel nous tombera sur la terre. D'où elle vient cette expression? Vous savez d'où? Des gens de Babel, du Migdal. C'est pour ça qu'ils ont construit la tour, pour faire des colonnes qui maintiennent le ciel, que le ciel ne descende pas. Qu'est-ce que ça veut dire en profondeur? Que Dieu ne vienne pas nous déranger dans notre vie. J'ai envie de vivre, de faire ce que j'ai envie. Je n'ai pas envie de vivre selon des lois de l'infini. Ça, c'est la brisure des tables. Et puis ça, Béat, c'est le manque de Emouna de vivre en terre d'Israël. Donc nous sommes entre deux et trois têtes, Ben Ametsarim. Première étroitesse, tu n'as pas compris le sens de la Torah qui doit descendre sur terre. Deuxième étroitesse, tu n'as pas compris l'importance de rentrer sur la terre d'Israël pour commencer à faire son travail. Mais si vous dites à quelqu'un que le but de ta vie c'est de faire la Torah et les mitzvot, tu peux les faire où? À New York, à Paris ou à Alexandrie. Alexandra. Sur le port. C'est tout. C'est un entraînement, c'est comme tu dis le cycle. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est partout, sauf de comprendre où tu es. C'est comme quelqu'un qui est en train d'être malade. Qu'est-ce qu'il fait parce qu'il est en panique? Il va chercher des solutions partout. Alors que la solution, elle est où? C'est lui. C'est toujours la même chose. Alors, Moraï de Rabotai, Be'ezrat Hashem, ce cours a été donné donc pour la mémoire de Jules Hamous Ben Rachel. La vérité, je n'ai même pas commencé à le donner, mais j'ai toujours ce problème. La vache veut toujours donner plus de lait que les petits veaux veulent têter. Donc, je suis une vache qui veut donner du lait. Elle est malade. Alors, Be'ezrat Hashem, que ta mémoire soit bénie et que ces jours de Yudzayin de Tammuz et Tisha B'Av deviennent des jours de Aslamat HaGeoula et qu'on console les 20 de lettres de l'alphabet. Amen.
Tout à l'heure. D'accord.